Bonjour. Eh bien, ce dimanche, je vais continuer mon étude sur le pays d'Israël. Je vous dis ces choses-là, vous allez me dire oui, mais ça, qu'est-ce que ça nous fait? En quoi ça nous concerne? Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons à savoir ces choses. Si vous voulez pas les savoir, éteignez votre appareil, allez écouter la télé, les émissions de variété, n'importe quoi. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous sachiez ce qui s'est passé vraiment. Donc, c'est une étude. Voilà. On va commencer par lire le prophète Amos. Amos au chapitre 9, verset 15, ce matin. J'espère que vous allez tous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre dans quel temps nous vivons et que ce n'est pas de la rigolade. Voilà ce que Amos, le prophète, dit au verset 15. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Ce rassemblement d'Israël est, selon la Bible, le dernier. Vous vous rappelez qu'ils ont été déportés, ils sont revenus, ils ont été déportés de nouveau, ils sont revenus, mais là, c'est le dernier. Il n'y aura plus d'exil. Le peuple ne sera plus arraché de sa terre et ce qui se passe actuellement en Israël s'accomplit conformément au plan divin annoncé par les prophètes bibliques. Si Dieu a voulu que ce pays soit l'héritage d'Israël, on est qui pour contester avec Dieu? Hein? On est qui? Les Palestiniens sont les gens qui habitaient cette terre au temps de l'occupation anglaise, et ce pays s'appelait la Palestine. Depuis qu'Israël est revenu sur sa terre promise, les Arabes palestiniens, certains Arabes palestiniens ont choisi la nationalité israélienne. Selon la Bible, il ne peut pas y avoir de contestation possible. Le prophète Ézéchiel dit, dans Ézéchiel 36, 22, je vais vous le trouver, 36, 22, il dit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Il leur dit pas, vous êtes merveilleux, c'est pour ça que je vous aime. Non, non, il dit, vous avez profané mon saint nom dans les nations. Alors donc, c'est pas à cause de vous que je vous ramène, c'est à cause de mon nom. Alors il dit, je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alors, tout ça s'est accompli, sauf les versets 25 à 28. Ça, c'est pas encore accompli. Comme je vous le disais, selon la prophétie d'Ézéchiel, Israël, c'était une vallée d'ossements morts, et puis, dans la vision, il a parlé, la chair, les nerfs, la peau, tout ça s'est revenu et ça a formé un corps. Nous en sommes là pour le moment. Mais comme le montre la vision d'Ézéchiel, l'esprit n'a pas encore soufflé sur eux. dans Ézéchiel 36, 36, écoutez ce que Dieu dit. Ézéchiel 36, 36. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Les nations autour finiront par se rendre compte que c'est Dieu qui rebâtit ce qui avait été détruit et planté ce qui avait été dévasté. Parce que quand Israël est revenu dans son pays, c'était un désert. Hein. D'ailleurs, on dit toujours le désert a refleuri, et c'est vrai. Dieu dit, j'ai parlé et j'agirai. Dieu donne des limites à Israël. Et on trouve ces limites dans Exode 23, 31 à 33. Je vous le lis, 23, 31 à 33. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras pas d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Voilà. Ceux qui ne veulent pas rester, ceux qui veulent... Voilà, chasse-les. Ben, ils n'ont pas eu besoin de les chasser, ils sont partis tout seuls. Hein. Ils n'ont pas aimé, ils ont dit oui, on est occupé, c'est dégoûtant. Et alors, il y a des groupes de terrorisme qui se sont créés. Et maintenant, ce n'est pas tous les Palestiniens hein, qui sont comme ça. Ce sont des groupes de terroristes, les mêmes qui agissent chez nous et qui font péter le Bataclan et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu a donné des limites au peuple d'Israël. Et ça n'a pas été, et c'est toujours, ça n'a pas été sans conflit, encore des conflits. Dieu livrera les peuples qui ne voudront pas ce que Dieu veut, il les livrera entre leurs mains, et ces gens-là n'habiteront plus sur cette terre. C'est ce qui est écrit là. Ce retour a commencé en 1882, lorsque le docteur Pinsker d'Odessa a écrit une brochure qui se nommait « Auto-émancipation ». C'est une petite brochure, et dans cette petite brochure, il proclamait un retour à l'agriculture dans le pays d'Israël, parce qu'il s'était laissé à l'abandon. Et il préconisait, deuxièmement, qu'Israël redevienne une nation. 12 ans plus tard, Theodor Herzl, je pense que vous avez entendu parler, a écrit un petit livre qui s'appelait « État juif ». Ce bouquin a eu un retentissement mondial. En Suisse, à Bâle, le 29 août 1897, Theodor Herzl affirma, lors du premier congrès sioniste, je vous rappelle que Sion, c'est Jérusalem, hein, quand on est anti-sioniste, ça veut dire qu'on est anti-Jérusalem. Il faut réfléchir un petit peu. Jérusalem, c'est le lieu que Dieu a choisi pour mettre son nom. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Et être contre ce lieu, mes pauvres enfants, on est contre Dieu si on est anti-sioniste. Et oui, et on est, soit on est des croyants de la Bible, soit on est des croyants selon des sentiments. Nous devons obtenir, voilà ce qu'il a dit, nous devons obtenir un foyer national à nous, lors de ce congrès, en Suisse. Quelques années plus tard, le docteur Chaim Weizmann, professeur de chimie en Angleterre, a fait une découverte qui était peu coûteuse pour fabriquer la trinitroluène, excusez-moi si je le prononce mal, mais c'est un explosif dérivé de l'acétone. Alors, le gouvernement anglais lui a proposé une récompense pour sa découverte. Et Weizmann a demandé que la Palestine soit un foyer national d'Israël. Et cela leur a été accordé. Cette concession a fait l'objet d'une déclaration gouvernementale, évidemment, ça n'a pas... Voilà. Et le premier ministre anglais, Lord Balfour, vous avez dû en entendre parler, Lord Balfour a laissé son nom à ce fait historique. C'était quelque chose, les choses se précipitaient. À la même époque, en 1917, la Palestine a été conquise par les Turcs et le général anglais Allenby entra dans Jérusalem. En 1922, les nations accordent à l'Angleterre le mandat sur la Palestine en faveur de l'établissement d'un foyer national d'Israël. Vous voyez, ça commence à bouger, les prophéties commencent à s'accomplir. C'est comme les eaux qui se remettent en place, vous voyez, la prophétie qui dit les muscles, la chair, la peau, tout ça. Et Dieu offre, il y a des offices d'immigration qui se sont ouverts, mais en 1939, un livre blanc a été publié abolissant la déclaration Balfour. Vous voyez, ça va jamais sans problème. Et les immigrants furent limités à 15 000 par an. Mais ça a été la tragédie que vous connaissez, parce que à cette époque, l'antisémitisme faisait des ravages en Allemagne, puis dans toute l'Europe. C'était l'horreur, vous connaissez l'histoire. Et vous voyez comment le diable se déchaîne. Quand il voit que ce que Dieu dit s'accomplit, le diable se déchaîne, autrement il s'en fiche, hein, il laisse se faire. Mais quand il voit que les choses que Dieu a dites s'accomplissent, alors là, il se déchaîne. Et il y a eu des immigrations clandestines, mais les Anglais ont commencé à empêcher ces Juifs qui voulaient venir s'installer en Israël. Ils les empêchaient, ils les emprisonnaient, ils les déportaient à Chypre. Souvenez-vous de l'odyssée du navire Exodus, qui ramenait 4554 immigrants clandestins. Ils ont été refoulés vers la France. Il y a un film qui a été fait là-dessus qui s'appelle Exodus. Je vous recommande de le regarder, de le voir. Vous pouvez le commander. On le trouve encore. Exodus, c'est un très bon film. Ces Israélites ont dû revenir en Allemagne, d'où ils étaient partis, après avoir échappé au camp de la mort. Et ils ont été enfermés à nouveau dans ces camps. C'est l'horreur complète. Je vous rappelle qu'ils avaient été refoulés vers la France. Et c'est pas les Inuits qui les ont vendus à l'Allemagne. Bon, je vous fais pas de dessin, vous avez compris. Le mandat sur Israël a finalement été abandonné par l'Angleterre en 1947. Et la lutte a commencé entre Arabes et Israélites. Israël, à cette époque-là, ne comptait que 650 000 âmes. Et ils ont été attaqués par 7 pays arabes qui représentaient 40 millions d'âmes. Israël triomphe miraculeusement, au prix évidemment de rudes combats, de lourds sacrifices. Et puis l'État d'Israël a été proclamé le 14 mai 1948 par Ben Gourion. Voilà. Une partie du discours de Ben Gourion, quand l'État a été donc créé, il a dit « La terre d'Israël a été le lieu de naissance du peuple juif. Là se forma sa personnalité spirituelle, religieuse et nationale. Là, il écrivit la Bible pour la donner au monde entier. » Et oui, et Weizmann a été élu président de l'État. Le premier acte du gouvernement, ça a été d'affirmer que l'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Israélites dispersés dans tous les pays de l'exil. Une loi, appelée la loi du retour, précisait que tout Israélite a le droit d'immigrer en Israël, car la raison d'être de cet État, son objectif essentiel se trouvait dans cette émigration en masse appelée le rassemblement des exilés. C'est les prophéties qui s'accomplissent. En 1958, 10 ans après la proclamation de l'État d'Israël, 2 millions d'Israélites peuplaient le pays. En 1994, ce chiffre a plus que doublé. Ils sont sortis de plus de 100 nations, ils sont arrivés de plus de 100 nations, et depuis l'ouverture du rideau de fer, les Juifs de Russie, qui sont estimés à 3 millions, arrivent en Israël à la cadence de 200 000 par an. Alors, vous voyez, les prophéties bibliques prennent une allure de plus en plus vivante au fur et à mesure que vous parcourez le pays d'Israël. Et aussi, il faut le dire, au fur et à mesure que les années s'écoulent, parce que sans arrêt, le peuple travaille à la reconstruction de son pays, à sa modernisation, à sa transformation. Avec mon épouse, on a visité, on était avec le frère et la sœur à Laman qui nous ont offert le voyage, on est resté là-bas, je crois, une quinzaine de jours. C'est absolument époustouflant de voir ce qu'ils ont fait de cette une transformation extraordinaire. Ézéchiel 36, 8, 10 et 33, 34 disent: Montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux, vous serez cultivés et ensemencés. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, et on dira: cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et c'est vraiment vrai. Encore aride vers 1880, le sol d'Israël ne connaissait que de malheureuses personnes qui s'efforçaient d'en tirer de maigres moissons, jusqu'à l'arrivée des premiers pionniers. Et là, tout a changé. Le temps était venu pour la terre. Et aujourd'hui, conformément à la prophétie, la terre dévastée est devenue une terre cultivée. De Dan à Beersheba, plus de 100 millions d'arbres projettent leur ombre sur la Terre Sainte, des pins, des cyprès, des eucalyptus, pour la pâte à papier, des caroubiers, pommiers, grenadiers, orangers, abricotiers, pruniers, bananiers, je ne vais pas vous faire toute la liste, des figuiers, enfin bon, tout ça. Ils ont transformé les crânes nus des montagnes en forêts imposantes. Et tout cela parce que Dieu œuvre derrière l'homme et par l'homme, pour accomplir son plan divin, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. C'est comme ça. Des champs immenses sont couverts de vergers, de potagers, de pastèques, de tomates, de maïs, de blé, de betteraves à sucre, de vignes, etc. Quant au coton, pardon, la semence a été fournie par le milliardaire américain. Monsieur Hamburger, 50 000 hectares produisent 100 millions de dollars de coton brut par an. Vous vous rendez compte? À l'ouest du Néguev, 15 000 hectares de terre autrefois désertes ont reçu leurs semences. 6 000 hectares de terre ont d'autre part été gagnés sur les marais du lac Oulé, qui constituait un nid de paludisme. C'était l'horreur. On y cultive maintenant le riz, le coton, la canne à sucre. Vous voyez, dans Amos 9, 13, il est dit: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Labourer, semer, moissonner, tout cela se fait en Israël aujourd'hui et avec les techniques les plus modernes. Aujourd'hui, on peut sillonner tout le pays sur de belles routes, vraiment, hein? Les chemins sont restaurés. Pour y faire reverdir le désert, l'eau du Jourdain et du Yarkon est amenée jusqu'au Néguev par des pipelines dont certains ont un diamètre de 3 mètres. Hein, et dès que l'eau est assurée, les cultures y verdissent. Hein. Quant aux maisons, elles sont climatisées grâce à la réfrigération par l'utilisation de l'énergie solaire. Voyez? Ésaïe 58,12 dit: On t'appellera celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Hier, terre aride et morte, aujourd'hui, terre verdoyante, le pays d'Israël est revenu à la vie. La prophétie d'Ézéchiel concernant les ossements déchaînés, desséchés, pardon, qui sortent des sépulcres, se réalise sous nos yeux. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Vous vous rappelez, je vous ai prêché là-dessus, Ézéchiel 37, 5, 6. Cette première phase de la prophétie est une réalité en Israël qui possède ses cultures, ses champs ensemencés, ses arbres fruitiers, ses colonies agricoles, ses pipelines, ses routes terrestres, maritimes, aériennes, ses usines de ciment, de phosphate, ses écoles, ses lycées, ses universités, ses armes, ses chars, ses avions, ses fusées, ses vedettes, son gouvernement, la Knesset, ses ministres, son drapeau, sa monnaie. Mais il y a aussi ses synagogues, le mur des lamentations et quelques signes annonciateurs du réveil spirituel annoncé par Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur les morts et qu'ils revivent. Ézéchiel 37, 9. Et c'est ce que nous attendons, c'est que l'Esprit vienne des quatre vents et souffle sur ce peuple. Amen. Je vais m'arrêter là. Je pensais que ce serait ma dernière prédication, mais là, je suis transporté, et je vais vous en apporter encore peut-être une ou deux. On verra comment Dieu dirige les choses. Faites-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, même si vous pensez que je dis des bêtises. Dites-moi ce que vous pensez. Moi, je crois ce que la Bible dit. J'ai toujours cru ce que la Bible dit. Si Dieu dit, eh ben, Dieu fait. Et voilà. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et rappelez-vous, pour vous, pour votre propre vie, mettez-vous du côté de Dieu, parce que quand on se met du côté de Dieu, eh bien, on est béni, on réussit, on est dans l'abondance. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Amen. Au revoir.